l'apôtre par là, voilà, voilà. Louis, enfin, Louis de Voiron. C'était le week-end du mariage. Et il nous a vraiment encouragés, c'était vraiment bien, j'ai vraiment apprécié. Voilà, donc c'est juste pour vous rappeler que lui, il était, il proclamait les bénédictions pour cette année, la nouvelle année 2016, d'accord, pour son église, Lombardo, Louis Lombardo. Et en même temps, il était prophétique pour nous parce qu'il a dit, vous avez entendu, qu'il y a des grandes choses qui vont se passer dans notre assemblée aussi. Voilà, il a reçu ça de la part de Dieu. Et à la fin du culte, je lui ai dit, ben, je crois avec toi. Je crois avec toi. C'est un peu mon habitude quand je vois les gens convaincus qui proclament les choses. Ben, je dis, je crois avec toi, je m'associe. Je m'associe avec la parole que tu annonces, et nous voulons croire que Dieu va faire des choses extraordinaires cette année. Détruire pour construire, voilà mon partage ce matin. Détruire pour construire. Et nous allons prendre un message dans la parole de Dieu, vous allez tout de suite comprendre, on parle de la destruction et aussi de la construction. Évangile de Jean, chapitre 2, et on va commencer avec le verset 13 jusqu'à 19 inclus. Tu peux lire, Fred, toi t'aimes bien ça. Hein? Comme ça, tu vas te séparer un petit peu de ta femme pour quelques minutes. Elle va avoir froid.
C'est de ma faute le chauffage. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic ou de voleur, selon les fonctions, les versions. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » C'est bon ?
Très bien, merci beaucoup. Donc, voilà, c'est pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, pour les plus anciens, vous connaissez bien cette histoire. Pour d'autres voilà, qui commencent, ben, vous découvrez. Mais la parole de Dieu est quelque chose qui nous régénère tout le temps. Hein. Donc vous avez vu, Jésus arrive dans un temple. Ah, il arrive dans un temple. Un temple, c'est un bâtiment. Voilà, à l'époque, on appelait ça un temple, une habitation. Enfin, là où on venait pour faire les cultes, pour la célébration à Dieu. Selon l'Ancien Testament. Et Jésus arrive dans un temple, et qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'était pas content, hein, vous avez vu, c'est... moi j'appelle ça sainte colère. Hein, sainte colère. Il s'est fâché. Hein. Ah, pourquoi? Parce qu'au lieu de voir les gens prier, chanter, peut-être, voilà, ben, il a vu, il est entré. C'était vraiment le marché. Il est bien d'accord? Il y avait les pigeons, il y avait quoi encore? Les bœufs. Il y avait des bêtes. Il y avait des tables. Et puis voilà, c'était, on marchandait, on vendait, on achetait dans un lieu où on devait prier. C'était la maison de prière. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par chasser tous ces gens-là. Ensuite, il renverse les tables, voilà, c'est, et il commence à faire le nettoyage. Il met tout ça dehors. Ça va, on se comprend? C'est bon? Vous avez suivi? Donc, il est question ici de chasser, il chassa, il renversa les tables. Donc ça, alors, il y a eu vraiment, il a fait le ménage dans ce temple. Et la deuxième pensée qui est capitale aussi dans ce texte, donc voilà, il y avait toujours des gens qui contestent, toujours comme ça, hein. Quand il y a quelque chose qui se passe, il y a des gens qui sont contents, d'autres non. Il y a des gens qui acceptent, ou non, même dans l'œuvre de Dieu. Mais de toute manière, c'est le Dieu qui a toujours le dernier mot. Amen. Voilà, c'est lui qui est souverain. Et donc, ces gens qui contestaient, ces gens qui n'étaient pas d'accord, s'adresse à lui pour lui dire « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Montre-nous quelque chose pour dire que c'est bien ce que tu fais. À peu près ça. Et regardez la réponse tranchante, directe, capitale. Il dit, il s'adresse à des gens religieux. Pour eux, c'était quelque chose d'important. Toutes ces traditions, les habitudes, etc. Et là, Jésus s'adresse à eux pour leur dire « Détruisez ce temple. » Oh là là ! Le temple qui a été construit il y a quelques siècles avant, par le roi Salomon, on arrive là, et puis Jésus dit « Détruisez ce temple. » Et il continue. Alors, c'est, pour tous ces gens-là, c'était quelque chose d'incompréhensible. « Détruisez ce temple, je répète, et en 3 jours, je le construirai, bâtirai. » Or, humainement parlant, c'est impossible. On est bien d'accord, même aujourd'hui, humainement parlant, avec toutes les entreprises, toute la technique que nous avons, avec toutes les grues et les moyens de construction, démolir un bâtiment, une église à bâtiment, une église ou un temple, c'est la même chose. Et reconstruire en trois jours, les gens se sont dit, il est complètement à côté de la plaque. Complètement. Et c'est normal que ça réagissait. Ils n'étaient pas contents. Il y avait une révolte quelque part. Mais Jésus, quand il a dit quelque chose, c'était la parole de Dieu. Et c'était comme ça, mais pas autrement. Il ne revenait jamais en arrière. Mais c'est parce que Jésus employait un langage spirituel. Détruisez ce temple, et détruisez ce temple, et en 3 jours, je le construirai, bâtirai. Donc, il parlait, on a compris plus loin, de son corps, de sa mort, de sa résurrection, en trois jours, troisième jour. Donc, il était crucifié, d'accord ? Crucifié. Et tout le monde pensait que c'est fini. Voilà, on a détruit Jésus-Christ, on l'a crucifié. Maintenant, c'est fini pour lui, il ne va pas nous embêter. Ça se la calme finalement, tous ces religieux, tous ces gens religieux qui interprétaient les choses de cette façon-là. Et pourtant, Jésus, ça vous le savez, Jésus est ressuscité. Amen. Il est ressuscité et aujourd'hui nous prêchons sa résurrection. Et aujourd'hui, grâce à cette résurrection, nous sommes chrétiens. Et grâce à cette résurrection, nous croyons à la résurrection et nous croyons que nous vivrons éternellement avec lui parce que Jésus a brisé la mort. La mort, c'était juste un passage. Il a brisé, il a détruit la mort, d'accord ? Et troisième jour, voilà, il est ressuscité. Il est ressuscité, il s'est montré vivant D'accord? Et il parlait de cette habitation, parce que le temple veut dire quoi? Le temple veut dire un lieu de culte, un lieu de prière, mais aussi une habitation. Voilà, donc un lieu, un temple est habité par quelque chose, par quelqu'un. Et puis donc ici, il parlait du temple, son corps, qui est habité par la vie, habité par Dieu. Et donc il a brisé la mort. Et voilà, à partir de là, il y a eu la construction de l'église spirituelle. Même en Australie, il y a des gens qui ont l'occasion et le privilège de recevoir Jésus et devenir les enfants de Dieu, même en Belgique, hein, même en Afrique, hein, même en Afrique, partout dans le monde entier, nous avons tous le privilège. C'est une grâce, c'est une faveur de Dieu. Amen. C'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui a frappé à la porte. C'est lui qui a payé le prix. Donc, voilà, la construction de l'Église commence par sa résurrection, troisième jour. Donc, il parlait ici de 3 jours. D'accord? C'est bon? Alors, maintenant, je serai court. Je vais vous juste développer ça en se basant sur quelques exemples vécus, tout simplement. Moi, je n'aime pas parler beaucoup de choses théoriques, mais un chrétien doit vivre des choses. La parole de Dieu, ça se vit, ça s'expérimente. Amen. Ça s'expérimente. Alors, regardez, on va prendre, avant de vous donner quelques témoignages, le 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 16 et 17, vous allez voir que pour toi et moi, aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. D'accord? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Dis à ton voisin, tu es le temple de Dieu. Ou tu lui dis, pour qu'il soit plus clair, tu es une habitation de Dieu. Ou encore plus simple, tu es habité par Dieu. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. C'est aussi ça. Il n'y a personne qui a dit à Marie. Elle est un peu toute seule. Dites-lui. Bon, t'as dit à ta femme? Bon. Antonia, il n'y a personne qui a dit à Alex. Dis-lui. Dis-lui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Oh! Vous vous rendez compte, toi et moi, avec nos imperfections, avec nos faiblesses, quelquefois on est des tordus, imparfaits. On a quelquefois des expressions qui sont pas très claires. Et regardez le fait que nous avons accepté Jésus-Christ, il nous a sanctifiés, il nous a rendus capables. Amen. Nous sommes mis à part pour Dieu. Ah ben voilà, donc lui, il habite dans son temple. Et le temple, c'est toi et moi. Nous sommes habités par Dieu lui-même. Amen. Ah, c'est fort, hein, c'est fort. Alors, vous voyez l'église avant, donc le temple avant, où il y avait des ordres. Et maintenant, on parle du temple, le temple, voilà, spirituel. Toi et moi, nous sommes habités par Dieu. Il faut que dans ma vie, dans cette habitation, il y a de l'ordre. Amen. Donc, souvent, il faut faire un ménage, quelque part, un nettoyage aussi dans notre vie personnelle. Si tu peux encore relancer, merci. Là, on n'a pas encore fini. L'Esprit de Dieu, voilà, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit, quoi? Le temple de Dieu, et le temple de Dieu, c'est C'est toi et moi, c'est nous. Si quelqu'un, regardez l'importance, si quelqu'un, c'est juste pour que tu puisses savoir que si vous avez des ennemis, si vous avez des gens qui vous combattent parce que vous êtes chrétien, parce que vous avez accepté Jésus, attention, c'est la Bible qui dit, hein, ils combattent qui? Ils sont en train de détruire le temple de Dieu, une habitation de Dieu. Regarde l'importance aux yeux de Dieu que tu as. Amen. Donc, si quelqu'un, je répète pour que ça puisse être gravé dans nos cœurs, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un me détruit, amen, Dieu le... Ah, parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Combien de fois j'ai parlé avec des gens qui ont été aux prisons pour l'évangile. Mon papa était aux prisons dans l'évangile. Et quand j'écoutais, on était petit, tout petit, quand il nous a raconté ça, voilà, il y a quelque chose qui passait dans nos entrailles là. Quand j'écoutais ça, comme il nous a raconté, tu sais, Ida, il m'a frappé, il m'a jeté dans l'eau froide, il est venu avec le fer réchauffé pour nous. Voilà, j'avais même pas mal. C'est comme si que c'était pas vraiment réel. Et Dieu était là, Dieu nous a protégés. Quelquefois, ces gens ont été terrassés, tombés devant eux, parce que Dieu était là avec eux. Donc, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est... Le temple de Dieu est ça. Il n'y a pas juste quelque ça. Hein. Moi, je vous ai déjà dit, quand je suis né, ma grand-mère voulait que je m'appelle Antoine, d'accord? Parce qu'avant, Antoine, c'était Saint-Antoine. Je ne sais pas si maintenant, je ne pense pas. Hein. Si, encore? Je suis Saint-Antoine. Ça, vous le savez, vous avez. Saint-Antoine. Ma grand-mère, elle a dit à mes parents, Saint-Antoine, parce que, comme ça, il sera Saint-Antoine. Mais c'est pas de, on ne parle pas ici de cette sainteté, vous comprenez? Parce que j'ai accepté Jésus-Christ, d'accord? Je suis mis à part, la sainteté, ça veut dire mis à part, Dieu m'a mis à part pour lui. Donc je suis purifié, sanctifié par lui. Ce n'est pas parce que je mérite, mais tout ça, c'est par la grâce. Donc, car le temple de Dieu est ça, et c'est ce que vous êtes, et c'est ce que tu es. Tu es une habitation de Dieu. D'accord. Alors, comment faire maintenant pour détruire certaines situations dans notre vie pour que Dieu puisse se glorifier dans notre vie? Quelquefois, il faut balayer certaines choses, il faut détruire certaines forteresses pour pouvoir vivre des choses nouvelles. Voilà ce que Louis nous a parlé. Voilà, je rejoins maintenant sa pensée il y a 2 semaines. J'ai déjà raconté ce vécu, mon vécu, mais tout le monde n'a pas entendu ce témoignage. Il y a des années, on était à Waterloo, que vous connaissez très bien. Une belle église, il y avait 150 adultes, il y avait les enfants, les ados. On a dépassé 200, c'était tellement serré partout là-bas. Et j'étais salarié à l'époque de l'Église. Alors, humainement parlant, pour nous, c'était une belle vie. Oh, une belle Église. Voilà, il y avait un élan, la puissance. Il y avait des choses qui se passaient. J'ai pu voyager beaucoup parce que j'avais une équipe autour de moi extraordinaire. Et quelquefois, je partais 2 dimanches par mois pour pouvoir développer notre travail dans plusieurs villes en France. J'étais heureux, j'étais content. Et puis voilà, ça grandissait, ça poussait. Il y avait une jeunesse dynamique. C'était la génération de Virginie, David. Et puis tout à coup, y a quelqu'un qui me parle en me disant, il faut que tu ailles à Lille, c'est à Lille que tu dois ouvrir une église. Moi, j'avais un raisonnement. Je suis bien, ça va, c'est formidable, on va soutenir les autres. Comprenez? Et là, on me parle d'une implantation d'une église à Lille. Alors, j'ai commencé à réfléchir. Je dis, oui, bah, ça veut dire quoi? Ça, mon salaire sera certainement touché si on fait, on attaque là-bas, les bâtiments, etc. Bon, j'ai accepté l'idée, on a prié, puis on y va. Vous comprenez? Il fallait détruire mon raisonnement. C'est bon? Il fallait détruire ça. C'est plus valable. Restez juste entre nous. Et alléluia, gloire à Dieu, il y a des choses qui se passent, c'est les délivrances, le baptême du Saint-Esprit, c'était remarquable. Et mon raisonnement, c'était, ah ben c'est parti, on est arrivé, c'est formidable, maintenant ça va continuer, je suis bien. Mon raisonnement, c'était surtout pas recommencer. Vous comprenez? Vous avez compris? Pas recommencer. C'est bon, on a gagné. Et puis voilà, oui, ça travaille, ça... Ça craque dans la tête, ça, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Et au moment où j'étais convaincu, c'est lui qui devait rester pasteur à Waterloo, moi je devais venir ici, et il m'a dit, j'ai à cœur Moncron, parce qu'il habitait Moncron. Une fois de plus, mon raisonnement, ma façon de voir les choses, est atteint, touché. Qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire qu'une église, d'une église, on fait trois églises. Oh là là, les finances sont partagées. Et puis, il n'y aura pas beaucoup de monde là, par-ci, par-là. À Lille, démarrer ici, ça va être difficile. Et celui qui est mon ami, qui était mon ami, il est malade aujourd'hui, voilà, il ne pouvait même pas parler avec. Il m'a dit, Antoine, si tu n'es pas d'accord, je m'écrase et continue comme ça. Et c'est ça qui m'a interpellé en disant, mais si Dieu lui parle, qui suis-je moi? Vous me suivez? Qui suis-je moi pour écraser une conviction qui a reçu de la part de Dieu? Alors je lui dis, laisse-moi un petit moment de réflexion et je te dirai quoi. Il est parti. Et tout de suite, j'ai recevé une conviction, une révélation. Vas-y, c'est ça, il faut aller. Brise ton raisonnement. Vous voyez ce que je veux dire? Brise, casse, détruis. C'est moi qui dirige. Ah bon, d'accord. D'accord, Seigneur. C'est bon. C'est bon, on y va. Et puis ensuite, il y avait mon beuge aussi. C'était un moment terrible, humainement parlant. Il y avait deux couples qui venaient de là-bas. Il fallait les accompagner. Et regardez ce qui s'est passé. J'ai accepté de casser mon raisonnement humain, ma façon de voir les choses, mes habitudes. J'ai tout détruit et je recommence sur des choses nouvelles, sur des bases nouvelles. Et puis, les années après, oh, qu'est-ce que je suis heureux. Aujourd'hui, oh, je suis tellement heureux. Et je dis, Seigneur, pas trop vite. Hein. Surtout, ne m'en va pas trop vite parce que j'aimerais tellement. On a tellement donné. Pas trop vite, Seigneur. Mais je vais vous dire qu'il y a déjà quelque chose qui arrive à nouveau. Hein. Bon, c'est encore trop tôt pour vous dire. Et il y a des partout. Que ce soit à Moncron, que ce soit à Maubeuge, que ce soit ici. Pendant ces quelques années, combien de personnes que nous avons gagnées? Amen. Combien de choses qui se sont passées? Des séminaires, on fait les formations. Et si on avait bloqué cette révélation que Dieu nous accordait, bah, on serait devenu quoi? Un petit club chrétien. Allô? Un petit club chrétien. Donc, voilà, c'est le vécu. J'ai dû détruire mon raisonnement concernant l'Église pour accepter quelque chose de nouveau. Et combien aujourd'hui je suis heureux et content. Vincent était là, maintenant. Donc on avait pendant 5 semaines les enfants des États-Unis, mais après il y avait aussi Vincent pendant 10 jours. Et voilà, donc il y avait 2 semaines, 2 week-ends très chargés. Hein, vous comprenez? 2 week-ends très chargés. Donc il y avait le mariage, d'autres choses. Et le week-end d'après, il y avait la formation, il y avait le baptême, il y avait une réunion vendredi soir avec les pasteurs. Alors on s'est dit par téléphone déjà, bon, dans 3 jours, on ne fait rien. On ne fait rien, on boit une bière ensemble, on va aller manger de lunch une fois, voilà, et pour un peu se reposer entre deux. 3 jours, on ne fait rien. Et ça m'allait très bien parce que bon, la fatigue s'installait. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de joie, beaucoup de joie. Mais même s'il y a beaucoup de joie, il y a des moments, le corps ne suit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis très positif en disant ça. C'est réalité, là. Et puis voilà, j'ai parlé avec Christian qui devait prendre le baptême avec Monica qui... C'est ça, Monica. C'est toi, hein? Monica, il y avait Monica, Christian et Olden. Elle était extraordinaire pour son témoignage. Très court, mais percutant. J'ai parlé avec Christian et je découvre que Christian invite plusieurs personnes. Christian est en contact avec plusieurs personnes. Et Christian, il aimerait qu'on fasse quelque chose. Alors, j'ai dit à Christian... Bon, écoute, on va laisser passer tout ça. Et après, je viendrai vous voir. Bon, je suis plus impliqué maintenant parce qu'il n'y a pas de pasteur à Waterloo. Donc, voilà, il faut faire les choses. Et après, je me suis dit, bon, surtout pas pendant les 3 jours. Les 3 jours, c'est moi, non, non, non. C'est moi. C'est le flanche. Je ne suis pas exigeant, le flunch. Bon, finalement, on n'a pas été au flunch. Ah si, une fois. Crocodile, oui, crocodile. Alors là, on décompresse un peu, on discute, on parle. Après toutes ces réunions, toutes ces pressions, voilà. Pendant ces 3 jours, rien, rien, rien. Et tout à coup, boum, 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 il y a les âmes qui sont en train de se perdre. Ah! Bon, j'ai compris, je suis un pompier. D'accord. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Alors, tu dis à Christian que si un minimum 2 personnes, s'il peut réunir chez lui au moins 2 personnes, les voisins, ben, on va aller. Donc, moi, j'ai dit à Christian, d'accord, c'était jeudi. On va aller chez toi, à condition que tu aies au moins 2 personnes inconverti. Mais comment savoir qu'on aura 2 personnes à convertir? Pas facile, quelquefois, même ici. Hein. Deux personnes pour la première fois, c'est pas facile. Hein. L'amener même dans une église. Et là, Christian tout seul, s'il amène 2 personnes avec Jacques et Jacqueline, là, ah ben on y va. Alors j'ai dit à Vincent, bon ben écoute, voilà. Alors j'ai dû démonter mon montage 3 jours. On va aller manger au crocodile, on va boire une bière, on va décompresser. Ah oh oh. Mais pendant que je serai au flunch, ben, il y a les âmes qui sont en train de se perdre. Pendant que je serai au crocodile, il y a des âmes qui sont en train de perdre. C'est pas vrai? Allô? Donc j'ai dit oui, j'ai démonté j'ai détruit tout ça. On arrive là, 4 personnes, on était à 8. Vous êtes content? 4 nouvelles personnes. Chez Christian, dans son salon. Ce n'était pas une réunion, c'était juste rencontrer s'il y avait possibilité de les rencontrer. Donc on était 8 sur 8, 4. Oh! Ah, d'accord, j'ai compris, Seigneur. Merci, je te demande pardon, j'étais un peu rebelle. Mais j'ai renoncé à quelque chose. J'ai démonté mon projet. Et la chose nouvelle, il y a quelque chose qui se construit. une dame de ces quatre personnes. Elle était au baptême et elle a donné sa vie à Jésus. Oh oui! Qui était là à Waterloo? Vous vous souvenez? Non? Qui était là à Waterloo? Tu approuves? C'est la dame là, une dame là. Il y avait un jeune homme, il y avait encore quelqu'un. Cette dame, Catherine, elle a donné sa vie à Jésus. Elle a résisté, résisté, résisté. Et tout à coup, voilà. Elle est sortie. Elle a donné sa vie à Jésus. Alors, moi, j'ai dit, bah, j'ai renoncé au flanc du crocodile, mais j'ai gagné une âme. Ah, bah, je suis gagnant. Amen. Oh, est-ce que vous me suivez? On détruit quelque chose, on détruit pour construire des choses nouvelles, formidables, quelque chose qui est constructif, éternel. Et ça, c'était formidable. Christiane et moi, nous étions une fois ensemble à deux, une fois j'étais tout seul. On était dans une ville en Afrique, Pointe Noire, en Congo-Brazza. Pointe Noire, ça vous dit quelque chose là-bas, là, côté de la mer. Et on nous a fait visiter donc un bâtiment local, et voilà quelques situations. Et on arrive dans une église, dans un bâtiment qui était en train de se construire. On arrive là et puis on voit un jeune homme, hein, tu te souviens? On voit un jeune homme qui était là, si. Et puis moi, je demande au pasteur, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Ben, il dit, tu sais, s'il n'y a personne, on va nous voler. On va voler le matériel, et il faut quelqu'un, là, on donne un peu de quelques francs CFA, je ne sais pas. Alors, donc, un peu d'argent. Et voilà, souvent, ces jeunes, ces personnes surveillent, sont là, donc le voleur ne vient pas. Et moi, j'ai dit, bah, ah bon, tu es là, ça fait combien de temps? Il me dit 2 jours. Et qu'est-ce que tu as mangé? Ah oui, ça fait, j'ai pas mangé, ça fait 2 jours que je ne mange pas. Et t'as pas faim? Ah ben, il dit, nous, chez nous, ici, pas manger 2 jours, ben, c'est vraiment pas un problème. Hein. Même Patrick qui a les racines, ben, lui, ici, s'il ne mange pas 2 jours, ben, il aura quelques problèmes. Hein. Parce que ses racines sont là-bas. C'est pour ça, non? Hein, c'est ça? Pour moi, 2 jours, pas manger 2 jours, c'est pas grave. Hein. Bon, ça va, Pascaline? 2 jours, tu ne manges pas et c'est bon. Ah, pour toi, ce n'est pas grave non plus. Ah, pour moi non plus. Mais bon, c'est juste pour vous dire que ce jeune homme nous dit, voilà, je suis là. Oui, pourquoi il n'a pas mangé? Parce qu'il jeûnait, non? Parce qu'il n'avait pas d'argent, il n'avait rien. Et Christiane, elle a sorti €1,50 de sa poche. Et on n'avait pas plus. Et puis elle lui a dit, écoute, j'ai à cœur de te donner €1,50, mais... Pour nous donner 1,50 € en Afrique, c'est une honte. C'est parce qu'on est un peu orgueilleux, non? Ça vous arrive, vous êtes un peu... Bon, on ne va pas dire orgueilleux parce que ce n'est pas très chrétien, mais on va dire plutôt, on a quand même notre personnalité, on est un peu fier, non? Ça vous arrive? Moi, ça m'arrive, moi, je ne cache pas. Moi, ça m'arrive que je suis un peu fier. Et donner 1 € à quelqu'un en Afrique, c'est une honte. Quoi? 1 €? Oh là là, 1 €. Mais elle a sorti 1 €. Et puis, elle lui a dit. Et puis, le garçon dit, ah ben, avec 1 €, ben moi, je vais bien manger pendant 2 jours. Je ne sais pas s'il était vrai, mais pareil que oui, 1 €. Il allait au marché, il s'est acheté à manger pour 2 jours. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Il fallait casser l'orgueil, notre personnalité. Il fallait détruire quelque chose pour créer une chose nouvelle. Ah, quelqu'un est devenu heureux. Pouvez manger. Amen. Vous voyez, c'est beau ça. Hein? Alors, je suis venu en France, j'avais 19 ans. À l'époque, c'était deux blocs, voilà, là-bas, c'était le bloc communiste, et puis c'était deux mondes différents, deux fers. Déjà, pour sortir du pays, du bloc communiste, c'était toute une histoire. Et moi, je me suis retrouvé là parce que j'ai suivi mon père. Il est venu prêcher l'évangile ici, il était invité. Donc, je suis venu avec lui. Je suis resté J'avais 19 ans. Ma mère, elle n'a jamais accepté. Elle n'a jamais accepté que je reste enfant. Jamais. Elle me faisait la tête. Elle, à chaque fois, quand on allait plus tard, elle nous piquait. Elle piquait Christiane. Quelquefois, j'ai dû cacher des choses qu'elle a dit pour que Christiane elle soit pas vraiment frustrée. J'ai caché, mais j'aimais ma mère. Elle était pénible avec moi, jusqu'à la fin, insupportable. Mais j'aimais ma mère. Vous savez pourquoi j'aimais ma mère? Parce que quand j'étais ado et puis le monde m'a tiré, j'ai entendu sa prière la nuit qui priait pour nous. Qu'elle priait pour moi. Et aujourd'hui, j'ai dit merci Seigneur, elle n'est plus là. Mais sa prière avait une puissance parce qu'on était à 8 et tous les 8 ont donné leur vie à Jésus. Et moi, je suis celui qui a donné sa vie à Jésus. J'étais rebelle, j'ai refusé, je ne voulais pas ça. Le communisme, Dieu, tout ça, ce n'est pas pour moi, je vais faire ma vie. Et donc, j'aimais ma mère. Elle me persécutait dans le bon sens. Allez. Elle me piquait, elle regardait nos enfants quand on arrivait. Elle voulait juste voir ce qui n'allait pas pour me reprocher des choses. Et tout à coup, les années passent. Et moi, à chaque fois, j'arrivais avec les sourires. « Maman, je t'aime beaucoup. Oh, merci. Tu as prié pour nous. On est tous convertis. On a tous donné vie. » Je dis, « Maman, c'est formidable. » Oui, 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 mais après, ça tournait dans sa tête. Contre moi, contre moi. Et moi, je l'aimais. J'ai refusé d'avoir la haine contre ma mère. C'est ma mère. J'aurais jamais une autre mère, c'est elle, ma mère. Et certes, c'était notre combat. C'était notre combat pour Christiane. Et encore jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qu'elle ne sait pas ce qu'elle m'a dit. C'était terrible. Et moi, j'aimais ma mère parce qu'elle priait pour moi, pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Elle priait pour nous. J'aimais ma mère. Tout à coup, les années passent, ma mère, elle est mourante. On me téléphone, ça fait à peu près une dizaine d'années, je pense. Et on me téléphone et on dit, bah, écoute, maman va très bien, va très mal. Va très mal. Bon, bah, on va attendre un petit peu. D'accord, 2-3 jours, on m'appelle. Ah bah vraiment, ça ne va pas. Il faut que tu viennes. Si tu veux voir encore ta mère vivante, il faut mieux que tu viennes voir ta mère vivante. D'accord, je passe tous les détails, j'ai pris l'avion, j'arrive là-bas et je parle avec maman. Elle était heureuse, hospitalisée, alitée à l'hôpital, dans sa chambre. Je voyais que, humainement parlant, même le médecin disait, elle va partir dans 2-3 jours. Ah, j'étais content, j'ai vu maman. Et puis elle m'a montré juste une petite sourire. Et puis je lui ai dit, maman, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta prière. Quand tu étais jeune, tu étais en Allemagne comme prisonnière, voilà, aux travaux forcés, etc. Tu as souffert. Mais regarde, nous, on est là. On est heureux, tout le monde est heureux, on a nos enfants. Et puis maman se tourne vers moi avec ses yeux et m'a dit, je te demande pardon. Parce que pendant 2 années, toutes ces années, je n'ai pas accepté, je t'ai haïssé, je ne t'aimais pas du tout, même si tu es mon fils. Et je te demande pardon. Et je l'ai pris dans mes mains. On a pleuré tous les deux. Il fallait que je détruise mon raisonnement, la question de la haine, de rejet, parce qu'elle m'a fait beaucoup de mal. Ah ben, je l'aimais. Il fallait démonter tout ça, passer les frontières, les barrières, pour construire quelque chose de nouveau. Et vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, moi, j'ai pris l'avion pour venir ici. Et le lendemain, ma maman, elle est sortie de l'hôpital. Elle vivait encore 10 ans. Elle était déjà condamnée. Elle a pardonné. Elle m'a demandé pardon. Moi, je n'avais pas besoin. Je l'aimais quand même, vous voyez ce que je veux dire. Alors, combien il y a aujourd'hui de la haine dans le monde? Je vois ça quelquefois parmi les chrétiens. On a assisté à un enterrement ici, c'était pas facile parce que j'ai dû parler un enterrement où la dame, elle est chrétienne à Waterloo, et son mari, non, pas du tout. Combien de fois j'ai parlé avec lui, j'ai dit arrête de boire. Et c'est l'alcool qui l'a détruite. Et j'étais là, on était là, j'ai dû parler. Mais j'ai aucun témoignage pour prêcher l'évangile, le salut. Ah, parce que le monsieur en question, il était contre, il refusait, il buvait. Alors moi, je ne suis pas là pour juger, vous comprenez. Mais on n'a pas de témoignage pour dire, vous voyez quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Je ne pouvais pas dire ça. Mais je devais prêcher le salut. Et puis pendant, ensuite Fred est là, donc Albrecht, parce que c'est son beau-père. Lui a pris quelques paroles, hein, Fred, tu étais là aussi. Et au moment où il a parlé, il a dit quelques mots. Il y a trois femmes qui se fâchent et elles sortent du salle. Donc, ce n'était pas la salle de l'église, mais à la salle au crématorium. Elles se fâchent. Vous savez pourquoi? Parce que c'était une dame, c'était ex-femme de ce monsieur qui est décédé. Des années, des années, des années. Les deux ont refait leur vie. Mais elle était là lentement avec la fille. Elles se sont fâchées. Il était déjà là dans le cercueil, mort. Elles se sont fâchées contre lui. Encore la haine. Vous comprenez? L'homme n'est plus là. Et la haine surgit encore. Non! Refus total. Et c'est parti, ça s'est répandu sur la génération même après. Il y avait des jeunes, ça a pleuré, ça a crié, il y avait des révoltés là-dedans. Alors moi, j'ai dit, Seigneur, c'est formidable. Là, la même chose, j'ai dû juste démonter mon raisonnement. Ce n'était pas du tout prévu que j'aille là. Et au moment où on m'appelle, je réfléchis. Et j'ai dit, j'ai rien à perdre. Tout ce que j'ai à gagner, c'est dire quelques mots de l'évangile. Amen. Et c'est ce que j'ai. Vous voyez, il y a des choses à démolir beaucoup au niveau de notre raisonnement. Et j'aimerais vraiment vous encourager. On est là encore au mois de janvier. À détruire certaines choses dans notre vie. Je pense à quelqu'un qui avait le péché, enfin, qui vivait dans le péché, mais le péché personnel. Alors je lui ai parlé, je lui ai dit, détruis le péché et tu pourras reconstruire ta vie différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Quelquefois, on est lié par les péchés, par les habitudes, par les traditions. On est dans les quatre murs, on ne veut pas bouger quand Dieu nous demande quelque chose. Mais là, il y a tellement de... Je vous ai donné juste quelques extraits de ma vie où c'est du vécu. Mais on a tellement, je peux vous parler, nuit et jour, où on a vu Dieu partout. Quand on a lâché, quand on s'est séparé des choses, d'accord? Quand on a brisé certaines choses, et j'en ai encore, hein, ça vous, j'en ai encore des choses à briser, certainement. Hein. Chaque fois, je réfléchis, quand je reçois un appel de Dieu, ah ouais, mais bon, hein, maintenant c'est fini. C'est fini, c'est bon. Voilà, regardez quand Christian elle a eu un cancer, alors moi dans ma tête c'est fini, la dernière épreuve c'est ça. Voilà, j'ai vécu ça très mal, humainement parlant, très mal, à la maison aussi, et puis quelques mois vous êtes au courant de ce qui m'est arrivé, parce que, mais moi je me suis fait une idée, j'ai construit, voilà, une philosophie personnelle pour dire, voilà, on a vécu ça, on a vécu ça, on a perdu un enfant, voilà, j'ai fait l'histoire. Maintenant, on arrive là que Christiane, elle, qui a enfanté 8 enfants, elle a élevé 7 enfants. Tout ce qu'elle a fait, c'est ma femme. Et je la regarde et je pleure et je dis non, c'est pas possible. Et j'ai accepté l'idée. Ah ben, c'est la dernière épreuve. J'ai accepté. Mais j'ai dit, c'est la dernière. C'est la dernière. Voilà la... ma philosophie. Et le moment est arrivé où j'ai dû détruire. Vous voyez, la temple, le temple où habitait ma philosophie personnelle, j'ai dû détruire tout ça. Et les choses nouvelles, la nouvelle construction, c'est quoi? Ah ben, c'est que je suis là. Amen. Et encore mieux, hein, je suis déjà presque comme avant l'opération, mais encore dans 2-3 mois, je vais déjà dépasser. C'est ce qu'on m'a dit, on m'a réparé, hein, donc voilà, on m'a changé des pièces. Donc, je vais aller mieux encore qu'avant l'opération, parce qu'avant l'opération, j'étais déjà vraiment fatigué. Donc, vous voyez, démolir certaines choses. Essayez maintenant de voir certaines choses personnelles dans votre vie. Seigneur, il y a des choses, il y a une philosophie, il y a un raisonnement dans ma vie personnelle. Je vais détruire pour pouvoir construire des choses nouvelles. Au niveau de l'Église, la même chose. Prions pour que l'Église soit doublée à la fin de l'année. On va casser quelque part la stagnation et on va proclamer la multiplication. Moi, j'ai dit, Seigneur, cette année, moi, je veux, pff, qui suis-je moi pour dire, je veux. Mais je désire, Seigneur, vraiment, que l'Église puisse en moi doubler, parce que chaque âme est très chère aux yeux de Dieu. Amen. Il n'y a pas de prix. Que nous puissions avoir plus vite possible la batterie. Quand on a fait les choses... L'architecte à l'époque, je me souviens, il nous a dit, ça il faut fermer. Voilà, vous voyez, au niveau des autorisations, etc., pour avoir ces salles, ça il fallait fermer, il ne fallait pas que ça soit compté. Donc. Alors moi j'ai discuté avec lui, on a parlé avec lui, et je lui ai dit, non, on ne va pas construire le mur ici, on ne va pas fermer, on a besoin de ça pour quelque chose. Et chaque fois, je voyais la batterie ici. Et puis, on avait un moment, on avait la batterie avec Emmanuel. Et puis, après, il est parti avec. C'était juste 2-3 ans. Alors, moi, j'ai brisé ça cette année. Et je veux vraiment, je demande au Seigneur, parce que souvent, on m'a dit, vous n'avez pas de batterie, vous êtes contre. Oh là là, je dois m'expliquer pour ça. Non, mais attends. Mais bon, ce n'est pas juste pour ça, c'est parce que moi j'aime bien la vie, où ça chauffe, où il y a de la vie. Amen. On est dans... Qu'est-ce qui se passe? Viens parler avec, à ma place. Ah, j'aime bien la vie. On est là pour détruire la mort. On va prier pour que vous soyez bénis dans vos études, vous les jeunes. Amen. Que vous soyez tranchants. Je refuse le péché. Je le sais, j'étais jeune. Vous croyez que j'étais jeune? Vous croyez que j'étais tenté comme vous? Vers la boisson, vers les sexes, tout ça. On ne se cache pas, c'est comme ça. J'étais attiré aussi. Ah, tu souris, hein? Attention, parce que je vais lire sur ton visage. Bon, j'ai rien vu. Hein. Oh, Seigneur! Voilà, on va détruire toutes ces choses-là. Tout ce qui nous empêche d'aller plus loin. La religiosité, on va détruire tout ça. Une nouvelle construction. Amen! Vous avez vu, hein, ce que Jésus a dit. Julien, des choses nouvelles, hein. On va détruire le reste, ce qui reste encore, hein. On va détruire ce matin. J'attends encore un peu pour que vous puissiez aussi réfléchir. On se libère ce matin. Et on va vivre de belles choses. Amen. Il y a les âmes qui viendront à Jésus. On va détruire l'Église et en 3 jours, là-bas, ils ont construit 46 ans. Ils ont mis 46 ans pour construire un temple. Et Jésus a dit, oh, 3 jours. C'est facile avec Jésus, hein? Facile avec Jésus. Alors, détruisons ce matin pour pouvoir construire. Amen. On va se lever ensemble. Ô Seigneur, commence déjà de te libérer de. Tu es précieux, hein, tu es précieux à temps. Hein. Jésus a payé cher pour toi et puis la faveur de Dieu est sur toi. Le Seigneur me montre qu'il y a encore des personnes là qui doivent déposer des fardeaux, des choses, des raisonnements. Quelquefois, c'est juste dans la tête. Dépose ton fardeau ce matin. Détruis un raisonnement personnel. Sépare-toi de ton péché. Jésus t'appelle, Jésus t'aime. Dieu est un Dieu d'amour. Ô Seigneur, passe maintenant dans les rangs. Va laisser la liberté au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ne soit pas attristé par nos imperfections. Viens, Saint-Esprit. Viens, Jésus. Tu nous appelles vers des choses nouvelles. Seigneur, même si c'est juste le doute, alors nous le détruisons. Maintenant, au nom de Jésus. J'ai entendu quelqu'un qui disait dans la semaine, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on dirait qu'il nous manque un peu d'énergie spirituelle. Alors, tu déposes le manque d'énergie. Amen. Dépose. Détruis. Et tu reçois une nouvelle énergie, une nouvelle force pour pouvoir combattre l'ennemi. Alléluia. Alors, je vous propose pour que nous puissions nous réunir ensemble ici devant. Vous m'avez compris? On se regroupe ici devant. Et ensemble, on va passer un moment dans la prière. On va prier les uns pour les autres. Je vais demander aux anciens, vous savez ce que vous devez faire, aux responsables des différents départements. Laissez-vous guider. Voilà. Vers les uns et les autres pour briser les oppositions, les forteresses. Alléluia. Voilà, venez ici, on se regroupe là. Fred, pousse un peu les uns et les autres là-bas, prends un peu l'autorité. Voilà, on se regroupe ensemble, pendant que Sandy va jouer tout doucement, calmement, pour libérer la présence de Dieu par la musique aussi. Il y a la musique, donc on se sert. Alors venez ici tous là, il y a encore de la place là. Fred, il y a encore de la place là, tu les appelles là. On se regroupe ensemble là. Ouais, ici il y a de la place. Là, devant. Parce que là-bas il y a encore deux personnes. Venez encore là. Alléluia Seigneur. Il y a encore de la place là. On se regroupe ensemble. On va prier ensemble. Alléluia. On va dire ensemble, merci Jésus. On